Ça y est, le mauvais temps s'installe, les radiateurs s'enclenchent, la cheminée crépite. Vous avez remisé votre manteau de mi-saison. Les romans nordiques ne vous font plus frissonner de la même façon. Les Pères Noël envahissent les rayons de supermarché. Faut bien l'avouer, ça a quelque chose de démoralisant. Mais soudain, la radio s'excite. Il est 21h passé de quelques secondes. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Et vos habituels complices sont avec vous. Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour.
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 Dis donc, t'as failli nous être un peu casse-pêche là, non ?
Non, c'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et maintenant générique, maestro.
Mais je ne demande pas de la faire citer. Vous ne demandez pas de la faire citer parce que vous ne pouvez pas. On l'a fait partir de ce pays parce qu'elle était de notre côté et qu'elle aurait prouvé son innocence.
Vous n'avez qu'à la faire citer vous-même. Si personne ne l'a convoquée, on ne peut utiliser son témoignage.
Mais c'est parce qu'on nous a empêchés de la voir. Voilà la justice anglaise. Voilà l'Empire britannique. Et pouvez-vous faire venir Mrs. Moore juste 5 minutes?
Si cela peut être d'un quelconque intérêt, ma mère devrait atteindre Aden à midi aujourd'hui. Heure locale.
Banni par vous!
Je vous en prie, je vous en prie. Ce n'est pas une bonne façon de défendre votre affaire.
Oh, mais je ne défends pas cette affaire. Et vous, vous ne la jugez pas. Nous sommes deux esclaves.
Monsieur Mahmoud Ali, si vous ne vous asseyez pas, je me verrai forcé d'user de mon autorité.
Alors faites-le. Ce procès est une farce. Je m'en vais. Je ruine ma carrière.
Mrs. Moore. Où êtes-vous, Mrs. Moore?
Nous voulons Mrs. Moore. Mrs. Moore. Mrs. Moore.
Je veux le silence. Silence.
Adieu, mon ami. Sonnant. Ils ont fait partir Mrs. Moore. Mrs. Moore, collègue. Mrs. Moore! Mrs. Moore! Mrs. Moore! Mrs. Moore!
Mrs. Moore! Mrs. Moore, c'est Peggy Ashcroft, la comédienne anglaise qui a privilégié le théâtre à une carrière à Hollywood. Mais ça ne l'empêchera pas d'obtenir un Oscar pour ce rôle dans La Route des Indes de David Lean. Vous savez, David Lean, le réalisateur qui produit un chef-d'œuvre par décennie. Après Le Pont de la rivière Kwai, Lawrence d'Arabie, Le Docteur Jivago et La fille de Ryan, il tourne en 1984 son dernier film, La Route des Indes, une fresque intimiste noire et mélancolique, adaptée du roman d'Edward Morgan Forster. L'un des personnages les plus importants, c'est le docteur Aziz Hash Hamed, incarné par Victor Banerjee. C'est lui que vous avez entendu dans cet extrait demander justice et qui finit par haranguer la foule devant la morgue colonialiste britannique. Et pourtant, c'est un homme qui au début a de l'admiration pour cet empire, au point de vouloir copier les bonnes manières de ces gentlemen. Il y a quelque chose de ce film dans le premier roman d'Abir Mukherjee, L'attaque du Calcutta Darjeeling. Peut-être parce que l'empire britannique vit ses derniers jours. L'histoire se déroule en 1919. Le capitaine Samuel Wyndham, vétéran de la Grande Guerre, ancien de Scotland Yard, débarque à Calcutta. Il vient faire respecter l'ordre. C'est un homme imposé à l'administration. Surtout, c'est un opiomane, un sentimental, quelqu'un de pas très droit dans ses bottes, mais doté d'une certaine éthique et d'une non moins certaine morale. L'assassinat d'un haut fonctionnaire dans une ruelle sombre qui abrite un bordel va justement foutre un joyeux bordel dans la ville. Le train, on en cause le temps d'une attaque. Attaque suivie du braquage d'une banque. En filigrane, la présence d'un héros qui prône l'indépendance, les rivalités entre police et police militaire, la corruption d'une classe loin de Londres et qui en profite pour se remplir les poches. Et puis, le racisme omniprésent avec un focus sur les minorités métisses. Le roman est joliment désuet, véritable roman historique qui met en place des personnages meurtris aptes à hanter une série. Et parmi eux, un certain sergent Banerjee. Mais si, rappelez-vous, c'est aussi le nom de l'acteur qui interprète le docteur Aziz Ahmed dans La Route des Indes. Eh bien, il a la même personnalité, les mêmes croyances bêtes en l'Empire, et il va avoir les mêmes désillusions. Mais Samuel Windham est bien moins propre que son alter ego Richard Fielding dans le film de David Lean. Aussi, saura-t-il se remettre en cause et conserver l'admiration que lui voue Banerjee ? Et c'est plutôt tant mieux, car l'auteur de ce roman a déjà écrit les 3 prochains volets, ce qui, entre nous, pourrait habiller 2 fenêtres. L'attaque du Calcutta Darjeeling, d'Abir Mukherjee, c'est chez Diana Levy, et c'est un joli roman policier historique, dépaysant et surtout intelligent. Linda, je crois que c'est à toi.
Ah, alors, bon, je sais, moi déjà, je vous avais parlé la dernière fois du Cri du Peuple, la BD signée Tardy et Vautrin. Et bien là, je vais vous parler du roman de Vautrin. Bon, d'accord, c'était paru en 99 chez Grasset et Fasquelle. Et promis, après, je vous lâche avec la Commune de Paris. Enfin, je vous lâche un peu. Bon, j'étais obligée parce que, alors attention, accrochez-vous bien, ça Vautrin le détour.
Oh oh.
Ouais, hein, c'est... Attendez, je me suis risquée un peu aussi à... Un mieux Vautrin que deux, tu l'auras.
Oh.
Bref, bon, allez. Donc, là, c'était pour remonter de l'ambiance casse-pêche de tout à l'heure, t'as vu ça? Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Vautrin, non, quand même, le ton. Moi, j'ai beaucoup aimé son parler fleuri, son récit captivant quand il va droit et se regarde pas. J'avoue, j'ai décroché léger sur la fin quand l'auteur est trop là, devant. Rien à faire, je filoche. Quelle importance, depuis que Daniel Pennac m'a dit que je peux faire ce que je veux, sauter des pages, m'arrêter en cours de route, lire autre chose, revenir, allez hop, je me cale en diagonale, je replonge plus loin, et c'est rudement bien. En plus, il y a matière, 487 pages sans la biblio. Je vous lis un extrait de dialogue entre prostituées, juste pour le plaisir. Elle fait ça pour l'amour. L'amour, c'est que des os grasses et de la chair gâtée. Au mieux, l'amour, c'est d'être dans ses meubles, un nid avec un vieux, et de la domesticité. L'amour est le bataille. C'est pas de la mollesse d'édredon. L'amour, c'est ce qu'on attend toutes. Quand il vous dépose sa carte de visite, faut lui ouvrir la porte. La porte. L'amour, mon petit trognon, tu peux éteindre ton gaz, il viendra pas, t'es qu'une putain. Bon, chapeau également, monsieur Vautrin, rapport à votre jonglage entre fiction et histoire. Ou mieux, quand la fiction donne à voir et empoigner l'histoire. Je prends l'exemple des deux figures de policiers. On a le commissaire Mépluché, ou Mespluché, je ne sais pas comment vous dites. Ou...
Comme on veut, hein. Mépluché, c'est pas mal.
Daniel Pennac a dit qu'on faisait ce qu'on voulait.
Ouais, merci Luc. Le commissaire Mépluché, qui s'apprête à fuir Paris, à l'instar de l'ensemble de la bourgeoisie et des dirigeants, se réfugiant à Versailles dès le début de la Commune. Pour l'anecdote, Adolphe Thiers, le chef de l'exécutif, n'attendra même pas femme ni maîtresse pour décamper. Le commissaire Mépluché, donc, s'exprime à ce propos. J'étais pourtant préparé à endurer beaucoup, et passe après tout qu'au premier coup de chasse-peau des nuées de petits bourgeois sans cervelle se soient envolées comme une myriade des tourneaux vers la Seine-et-Oise, mais que l'exemple de la débâcle soit venu de tout en haut, alors là, je m'étrangle, je m'éraille, je m'apoplecte. Deuxième figure de policier, Hippolyte Barthélémy, le subalterne du commissaire Mépluché, son fouille-vase, sa mouche collante, sa balance à vis. Celui-là est chargé de rester sur place pendant les événements pour espionner le populo et rendre rapport quand les grands reviendront à la maison. Extrait de dialogue entre les deux policiers au sujet de meurtre commis par un prêtre. Du moins, sur ce chapitre, avons-nous eu la chance, l'assassin a eu le bon goût de ne pas nous laisser la charge de son procès. De la chance, monsieur ? Assurément, voyons, l'abbé est décédé. Oui, monsieur. Un prêtre, mon Dieu, un prêtre. Vous vous rendez compte? De quoi discréditer un peu plus la si belle, la si nécessaire image de notre chère mère l'Église? Un assassin est un assassin, monsieur. La grande boutique le voit autrement, cher ami. En ces temps de restauration de la morale et du civisme, les criminels ne sont pas faits pour se retrouver parmi les grands commis de l'État ou les serviteurs de la religion. Alors, Vautrin, il met aussi en scène quelques personnages historiques. Je vous avais déjà parlé de Jules Vallès. Vérification,
oui,
les garçons.
Oui,
de Jules Vallès,
auteur de L'Enfant. Il a écrit L'Enfant.
Oui. Oui, très bien.
Ben oui.
Oui.
C'est à peu près le seul roman de Jules Vallès que j'ai lu aussi,
ouais,
il y a très longtemps.
Alors j'en avais parlé pour Le Cri du Peuple aussi, vous vous rappelez?
Oui, oui. Oui, pour oui. Le Cri du Peuple, le journal.
Alors là, il y a pas vous, vous répondez bien, mais j'en vois un qui dort là sur ma gauche.
Je dormais pas.
Non.
Il se concentre.
Bref.
Je dormais pas.
Alors, il parle aussi, Vautrin parle aussi de, d'autres personnages de la commune. Il fait allusion à Étienne Varlin, ouvrier relieur, féministe de la première heure, je le précise, parce qu'à l'époque, même au sein des communards, c'est quand même assez rare. Et il va créer, entre autres, la Société de solidarité des relieurs de Paris, qui deviendra la Fédération parisienne des sociétés ouvrières, puis Fédération nationale, et enfin, Confédération nationale du travail. Ça vous dit quelque chose ?
CNT, oui,
ouais.
Ça me cause.
Alors pendant la commune, il est élu aux finances. Il fait partie de la minorité anti-autoritaire contre le comité de salut public et l'exécution des otages. Bon, il sera dénoncé par un prêtre, lynché par la population et achevé par des soldats. Bref, je passe juste. Louise Michel, institutrice militante qui fondera des écoles pour les pauvres. Je préfère juste la citer lors de son procès. « Ce que je réclame de vous, c'est le poteau de Satori. » C'était là où étaient internés les communards après de Versailles. « Où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire, et bien on a raison, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part. » Bon, je vois que j'ai plombé l'ambiance. Alors je vous propose de finir en chanson avec un tube de l'époque.
Cool.
Repris par la voluptueuse et fictive Cafcons. Et Vautrin imagine cette belle italienne dans la marée populaire du 18 mars face aux forces de l'ordre. Eh bien quoi, la canaille, nous sommes vos mères, nous sommes vos sœurs et vous voudriez nous tuer, poitrine offerte, aux regards et aux balles, elle chante.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille, eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères, les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille, eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Enfin, c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui, la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Vous êtes bien sur Radio G, sur le 101.5. Alors, Linda, c'est qui, c'est quoi cette canaille ?
Cette canaille ? Cette chanteuse, tu veux dire ?
Bah, le tout, cette chanson, cette chanteuse.
Bah, ça, c'est une chanson, donc, à l'époque, qui était qui a été reprise énormément, qui était très à la mode. Alors, moi, j'ai découvert cette chanteuse-là, mais je vais laisser Luc en parler parce que lui, il la connaît mieux que moi.
Bah, je la connais pas tant que c'est d'abord une chanteuse qui a fait partie de toute une vague de chanteurs rive gauche, hein. Moi, je pense aussi à Marc Augeret, qui fait partie de la même famille, des chanteurs un peu rive gauche, engagés, militants, et qui ont accompagné, finalement, on peut considérer qu'ils ont accompagné par leurs chansons, moi, j'aurais tendance à dire la classe ouvrière. Voilà.
Tu peux nous dire son nom ?
Francesca Soleville, une chanteuse éblouissante, allez voir, elle doit chanter encore aujourd'hui, elle a dû sortir un album il n'y a pas très longtemps, et voilà, c'est une personne hautement recommandable.
Une chanteuse italienne donc ?
C'est une chanteuse française.
Ah ah, toups, bien vu.
D'origine, mais pas d'importation.
Tout à fait. C'est maintenant l'heure de notre débat non plombé qui va être pour une part très Charles Bronson dans l'âme et pour une seconde part très porté sur les bulles. Commençons par l'homme à l'harmonica et rendons hommage aux éditions Sidonis pour le remettre sur le devant de la scène via 5 nouveaux films qui ne sont pas, je vous rassure tout de suite, Un justicier dans la ville 1, 2, 3, 4 et 5. Mais bon, le 1 et 2, oui.
Pourquoi le 2 ?
Bah parce que Sidonis réédite le 2.
Ah oui, d'accord, il fallait voir le 2 aussi.
Il n'était pas au programme, le 2, plus tard peut-être. Je vous laisse chercher sur le site de l'éditeur les titres des 3 autres. Projetons-nous dans ce justicier dans la ville. Alors, votre avis ?
Vas-y. Non, vas-y, commence.
Le justicier dans la ville, donc un film de, pour remettre dans le contexte, un film de Michael Winner de 1974 avec Charles Manson sur une musique de Herbie Hancock quand même. Le justicier dans la ville, bah, c'est un architecte qui, dont la femme est tuée lors d'une agression à son domicile et qui va devenir un justicier dans la ville.
Alors moi j'aime beaucoup le titre anglais. Le titre anglais c'est Death Wish. Et Wish c'est le souhait. Donc le souhait de la mort. Est-ce que cet homme devient justicier, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il justifie sa justiciarisation par malgré? Ou est-ce que c'est au fond de lui quelque chose qu'il souhaite ardemment, comme beaucoup de gens qui habitent ce grand pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, avec une culture très 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 portée sur, sur le règlement de compte à hockey choral, et comment faire pour régler des problèmes, avoir une arme, comment éviter d'avoir un bain de sang au Bataclan, que tout le monde soit armé, ça c'est Trump, c'est quand même Trump qui avait sorti ça. Je suis persuadé que ce film a été financé en partie par la NRA, même si j'ai pas fait de vérification.
Je crois qu'il faut replacer le film dans son contexte et dans les années 74. Alors on pourrait comparer ce film au film qui était tourné en France à l'époque avec, c'était Henri Verneuil, Belmondo. Enfin, il y avait toute cette série de films avec des costauds qui étaient des justiciers. Mais quand on parle du contexte, il faut le remettre en contexte historique. New York à cette époque-là est une ville qui se dégrade à vitesse grand V, qui est extrêmement dégradée et dangereuse. C'est pas la New York d'aujourd'hui. C'est une ville dans laquelle il y a de la violence partout, où les agressions sont permanentes et où la mairie est incapable d'endiguer ce phénomène. Ça sera fait à la fin des années 80. J'ai plus le nom du maire en tête, mais c'est pas très grave. C'est à la fin des années 80 que la ville commence à retrouver du calme. Mais le climat qui est brossé, alors de manière quand même assez théâtrale, tous ces petits voyous qui traînent dans la ville, qui font des agressions, enfin c'est même très gentil, c'était un peu plus saignant que ça, la réalité de New York à l'époque. Donc ça, ça me semble important, et je pense que, Toups, quand tu évoques le financement par la NRA, peut-être que c'est allé un peu court, un peu vite. Je pense pas que Bronson, il a peut-être eu un costume comme ça de justicier dans toute sa filmographie ou dans une bonne part de la filmographie qui va suivre. Mais je pense pas que ce soit comme ça à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, je rejoins ton regard. C'est un esprit typiquement américain, c'est-à-dire que on se fait justice soi-même. Mais je pense pas que la NRA était si présente que ça à l'époque.
Linda, tu en penses quoi, toi, de ce personnage qui est un peu l'autre versant de l'inspecteur Harry? C'est-à-dire que l'inspecteur Harry, il a les mêmes idées, mais lui, il est du bon côté de la loi, alors que celui-là ne représente pas la loi, finalement.
Alors, moi, je pourrais dire que le personnage, ouais, il a l'évolution qu'il a. Ce qui est un truc que je retiens de ce film-là, c'est que Bronson joue bien. Voilà. Ce film, j'avais pas envie de le voir parce que j'en ai un souvenir quand j'étais gamine, de glauquitude absolue par rapport à la scène du début. Et je confirme, c'était de nouveau très très glauque.
Tu veux parler de la scène de l'agression?
Oui, c'est ça, ouais.
Et
je me suis dit, même en tant que comédienne, ça devait être salement dégueulasse à tourner.
C'est aussi violent que la scène de Orange Mécanique.
Et oui, alors pour le coup, elle m'a rien fait celle-là, mais ça, on pourra en reparler. Je suis désolée. Non, mais par contre, hein, j'ai pas du tout aimé l'esprit, les réflexions qu'il y a régulièrement. J'ai trouvé que ça puait quand même un peu. Enfin, je veux dire, le gars, à chaque fois, on le traite de gauchiste régulièrement, alors qu'il a juste été objecteur de conscience. Et ça revient. Et à la fin, par exemple, il y a une petite fête quand il bascule. On entend oh mais il est raciste ce tueur, il tue plus de noirs que de blancs. Oh mais tu veux quand même pas de l'égalité raciale chez les truands, des trucs comme ça. Et je trouve que ça dissémine plein de je sais pas, des messages qui moi m'ont vraiment gêné, quoi.
Je pense que tu l'as mal vu. Moi j'ai trouvé ça très justement
ça dépeint bien le truc. Mais c'est quoi le positionnement? Parce que quand même à la fin, la morale c'est quoi? Les statistiques baissent, c'est efficace, et le gars c'est l'image, il continue, quoi.
Moi, je pense pas. Je pense que...
Ah ben, c'est comme ça à la fin du film, quand même.
Oui, mais alors, il faut voir. Ce qui est intéressant, c'est d'observer l'évolution du personnage de Bronson, qui, au début, porte son deuil et ne sait pas quoi faire. On lui refourgue une arme qu'il va récupérer dans une valise quand il ouvre. C'est son cadeau, parce qu'il a été... Il a été faire l'architecte chez les Texans.
Et d'ailleurs, excuse-moi, j'aime beaucoup l'intérieur de la voiture en vache bicolore. Excellent.
Et en fait, c'est quelqu'un qui va se prendre au jeu de la justice. On le verra d'ailleurs à la fin du film, qui annonce évidemment plein d'autres suites. Mais il y a quand même cette idée que on veut pas ça dans la société. C'est dit clairement.
Oui. Et puis il dit bien, si on n'est pas des pionniers, on est quoi? On est rien.
L'idée qu'on ne veut pas quoi, ça?
Qu'on ne veut pas de justicier solitaire dans la ville. À la fin du film, il est viré de la ville.
Il n'est pas jugé.
Oui, mais l'ordre ne veut pas de ça. C'est un western contemporain.
Tout à fait.
C'est ce que je disais.
C'est un western.
Mais
avec l'esprit de on met la poussière sous le tapis, si je puis m'exprimer.
Oui, mais sur ta réflexion, Linda, le fait qu'effectivement... le personnage a été objecteur de conscience. À nouveau, ça a un sens lourd aux États-Unis. Être objecteur de conscience, c'était pas facile. C'était un engagement. Mmh. Et donc, qu'on nous présente effectivement un personnage qui est de gauche, alors qui bascule dans la vengeance parce qu'il pense que c'est la solution pour régler les problèmes. Il faut agir soit comme on le fait aux États-Unis, comme on en a une image des États-Unis. Mmh. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ça. Parce que
c'est plus subtil
que ça. Mais je pense que ces éléments de personnalité qui sont donnés à Charles Bronson sont, à mon avis, très signifiants. Enfin, plus signifiant qu'on veut bien l'imaginer. Alors pour moi, c'est pas it is not my cup of tea, this kind of film.
Oh my god.
Qu'est-ce que vous voulez donc
soudain, mais perdons tous les auditeurs francophones.
Exactement. Mais il y a des éléments qui me semblent, enfin moi je l'ai regardé. Alors, je pense que je l'ai re-regardé, mais je l'ai vu il y a tellement longtemps. Et finalement, avec un œil critique, j'ai trouvé un paysage pas inintéressant.
Pas dit que c'était pas intéressant, hein, mais moi, j'ai trouvé... Enfin, c'était glauque et re-glauque et re-re-glauque, quoi.
Eh bien, on aura l'occasion peut-être d'en re-reparler. On va passer à l'autre film avec Charles Bronson. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est édité, lui, chez Studio Canal. L'autre était chez Sidonis. Pourquoi j'y suis intéressant ? Parce qu'ils l'ont réédité avec le titre anglais « Cold Sweat », qui est en gros, alors que ça s'appelait avant « De la part des copains », un film de Terence Young, le réalisateur de 3 des 4 premiers James Bond, quand même, et aussi d'un téléfilm sur la gloire de Saddam Hussein, il faut bien le dire.
Nul n'est parfait.
Et surtout, autant Un justicier dans la ville a un seul acteur, autant dans Cold Sweat, on va retrouver quatre acteurs, actrices, et quelques seconds rôles qu'on aime bien, nous, les Frenchies, comme Michel Constantin, puisque ce film se déroule dans le sud de la France. Alors, Linda, est-ce que ce film-là, tu le préfères à l'autre, quelque part ?
Il faut que je commence. J'essaie de trouver quelque chose de positif. Bronson joue bien. Ah ouais, je trouve que c'est un super comédien. Non, vraiment quoi.
Oui, mais alors il y en a quatre des super comédiens.
Alors non, mais pour tout dire, je trouve ça très long. Il y a beaucoup de voitures. Je suis pas fan des poursuites en voiture. Il y a de la fusillade. Je suis pas fan. Je suis désolée. Je me suis ennuyée. Il y a des scènes qui sont certainement bien, mais j'ai pas chopé l'intérêt de l'intrigue.
L'intérêt intrigue, c'est que personne ne fuit son passé, en fait. Je pense que ça.
Oui, oui, mais tu vois, c'est assez, en fait.
Il faut quand même rappeler le film. Hein. Le film, c'est un homme qui est poursuivi par, qui est rattrapé par son passé, donc Charles Bronson, il y a de nombreuses années, s'est évadé d'une prison militaire. Mais ces co-évadants tuent un policier. Ils sont,
il s'échappe.
Bronson réussit à s'échapper, à fuir et à se faire complètement oublier. Et des années après, les copains reviennent, ce sont devenus des trafiquants de drogue et ils vont prendre sa femme en otage. Donc, effectivement, on n'échappe pas à son passé, quoi. Et Bronson a une certaine manière de ne pas échapper à son passé.
Toups.
Bronson
joue bien.
des histoires de règlement de compte, de petites mafias, de vengeance, de type 20 ans après. Moi, Et moi, je me dis, c'était sans doute intéressant pour l'époque, sans doute. Mais je me dis en même temps, à l'époque, il y avait aussi des Orson Welles qui faisaient des films, qui tournaient dans le troisième œil. Troisième œil.
Oh la vache, ça va bien ce soir. L'homme, c'est bien. Troisième homme, on va rester là.
Donc l'époque n'excuse pas tout, n'explique pas tout en tout cas. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était très très long aussi. J'ai trouvé que c'était pas mal attendu. Et enfin, ça arrivait.
Bah, écoute, sur la caractérisation de l'époque cinématographique, tu as raison. Effectivement, ça correspond. C'est un film de son époque, hein, 1970. Voilà, ça correspond parfaitement à son époque. Moi, je trouve que c'est un bon film d'action avec des bons comédiens. avec une performance de James Mason que j'avais encore jamais vu au cinéma, un type qui se vide de son sang et qui blanchit au fur et à mesure, c'est assez étonnant.
Ça c'est vraiment bien fait.
Assez extraordinaire, oui. Et puis moi, désolé, la course de bagnole, moi je la trouve éblouissante. Elle est digne de Bullitt, de Steve McQueen, de Bullitt dans les rues de San Francisco, si je ne me trompe. C'est étonnant. Enfin, c'est une performance cinématographique éblouissante. Moi j'ai pris un pied du tonnerre.
Moi, j'avais jamais vu autant de monde sur la corniche, en fait.
Oui.
Parce que bon, quand on va dans le sud de la France, qu'on va faire les calanques, les choses comme ça, on est sur ces routes un peu torsées, ouais, un peu pleines de virages, et en fait, on klaxonne, mais il y a personne.
Oui.
Là, il y a plein de monde. Tout le monde s'est donné, ouais, rendez-vous là. C'est vrai que ça donne un truc un peu loufoque ou un peu baroque. C'est Rémi Julien, sûrement, qui fait.
Qui doit faire ça, oui.
Qui doit
70,
faire
oui.
Tous les cascades. Il est dedans. Il est crédité. Ouais. Il est crédité.
Oui, donc
au
c'est
film.
Lui.
Je suis d'accord avec Linda. On aurait coupé 3 minutes de course poursuite, ça serait mieux,
oui,
passé.
Oui.
Ça, c'est.
Mais pas les 3 dernières minutes. Les 3 dernières minutes sont. Quand il arrive sur la pente dans la rocaille, moi, les voitures américaines sont costauds quand même. Hein.
Oui, oui, non, ça c'est bien. Non, moi je suis un peu surpris parce que personne ne me parle des deux rôles féminins.
Ah bah si.
De Liv Ullmann et de Jill Ireland. Et je les trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'elles jouent en plus plutôt assez juste.
S'il y a une chose que je dois noter, c'est l'évolution faite effectivement de la femme du personnage de Bronson, qui part vraiment d'un côté femme au foyer obéissante, enfin on a vraiment tout le cliché de l'époque, et qui peut perdurer, hein, soit dit en passant, mais vraiment où effectivement il y a une prise d'autonomie, enfin elle se révèle au fur et à mesure, et je trouve ça assez chouette. Mais bah voilà, c'est pas grave, hein, je me suis ennuyée.
Non,
bah,
c'est sûr que effectivement il y a un casting quand même assez assez brillant, hein, c'est quand même un casting brillant, sous-utilisé indéniablement. On regrette.
Je sais pas s'il est sous-utilisé. Moi je trouve que. Enfin, moi j'ai une petite faiblesse pour Terence Young. Je trouve que je l'ai vu diriger pour Opération Opium ou des choses comme ça. Je trouve qu'il fait du film de genre dans les années 70,
mmh,
avec une belle brochette d'acteurs. Que c'est efficace. Que ce qui est. C'était très rapide sûrement pour l'époque, et là évidemment maintenant que Tarantino est passé parmi nous,
ça a vieilli.
Ça a vieilli forcément, mais il garde ce petit charme suranné des années 70. Enfin voilà, donc moi je.
Et puis le pantalon pâte d'ef va très bien à Bronson.
Ah, s'il y avait que les pâtes d'ef.
Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que nous quitterons Cold Sweat de Terence Young avec Charles Bronson, James Mason, Liv Ullmann et Jill Ireland chez Studio Canal. Et nous allons nous attaquer à deux bandes dessinées. La première, c'est Carou chez Delcourt de Bézian. Un avis, les amis ?
Carou, ah là là, Carou. Carou, c'est d'abord un roman de Stéphane Tézich. C'est l'histoire d'un personnage qui est en perdition, on va dire, enfin en tout cas dans le roman qu'il est, mais qu'il est aussi dans la bande dessinée, qui est script doctor, donc qui répare les scripts qui répare les scénarios pour en faire des bons films, et qui se voit confier une mission, c'est de remonter un film d'une vedette du cinéma. Et il prend la décision de mettre en avant un second rôle, une jeune femme, qu'il va faire se rapprocher de son fils. Et puis, à la page 85 de la BD, tout bascule, et donc on ne va pas en dire plus, parce que c'est pas le but du jeu. Voilà un peu le cadre de l'action. C'est un roman éblouissant, c'est une BD, bouleversante et géniale.
Linda, bouleversante et géniale, cette bande dessinée ?
Alors, j'ai un petit blanc. J'étais embarquée par la griffe, effectivement. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements. Après, quelquefois, c'est tellement conceptuel que j'avais besoin de retourner en arrière, en avant. Moi, j'ai pas lu le roman. J'avais besoin de retourner en arrière, en avant pour comprendre ce que je voyais. Mais je trouvais que le concept était plutôt chouette. J'ai refermé, je me suis dit, ouais, encore une fois, c'était glauque. Je me suis dit, waouh.
Désolé, ça sera le thème de l'année hein, dans cette émission.
C'est pas gay, Luc.
C'est à pleurer.
Ah oui, voilà, on est d'accord.
C'est à pleurer. Moi, je pleure allègrement là-dessus, oui.
Donc voilà, c'est peut-être une période où j'ai un peu plus de mal avec ce genre de choses. Et puis, des problèmes de dépressifs qui ont de l'argent, où je me suis dit, waouh, ça nous embarque. Ouh, mais c'est un objet qui vaut le détour, c'est clair.
J'ai trouvé effectivement que c'était un très bel objet. Un très très bel objet. Bravo les éditions Delcourt. J'ai trouvé une analogie avec au niveau graphique avec Alak Sinner, de Munoz et Sampaio, une BD qui remonte aux années 80, série de BD. J'ai trouvé une phrase magnifique, page 99. La file de voitures avance par petits coups. 2 mètres, stop. 1 mètre, stop. 3 mètres, stop. La circulation écrit son histoire en morse. Ça, pour cette phrase-là, ça vaut le coup de lire la BD. Les 12 dernières pages sont totalement incompréhensibles, des bribes complètement incohérentes, et pourtant, on comprend absolument tout. Ça m'a aussi fait penser à Mulholland Drive de David Lynch, sans doute à cause du milieu du cinéma. Voilà.
Il y a plein de choses qui sont magnifiques. Effectivement, cette espèce de décollage onirique des dernières pages est éblouissant. Il y a une des plus belles planches de la BD, de toute l'histoire de la BD. C'est à la page précisément 85. Traditionnellement, dans la BD belge, il y a toujours Jacobs ou Hergé font des planches uniques. Voilà, avec une grosse fusée, enfin voilà, une pyramide, etc. Et là, Bézian, il a fait une page qui est quasiment blanche, avec un filet noir autour, 2 traits diagonales qui dessinent une route, quelques petites voitures vues de dessus, et c'est le point de bascule du bouquin, c'est d'une synthèse, enfin c'est zen au possible, tout est dit là-dedans. Moi je trouve que c'est, enfin cette BD elle est, enfin c'est, j'avais pas lu ça depuis longtemps.
Eh bien, je trouve que c'est une excellente bande dessinée, que c'est une excellente nouvelle, que tout le monde sorte un peu retourné de cette lecture. Je signalerai juste pour Linda, qui a fait beaucoup d'allers-retours, comme elle le disait, que le même jour, Bézian, il a sorti Aller-retour chez Delcourt aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette similitude.
J'ai fait des allers-retours.
Oui, tu as dit ça au début.
Oui,
dans ma lecture. Merci, lecture.
Alors, aller-retour, c'était juste une histoire de détective et d'errance. D'accord. Voilà. Carou, c'est chez Delcourt et c'est de Bézian. Et on va parler maintenant de la dernière bande dessinée de la quinzaine. On est chez nous. Le premier volet Soleil Brun aux éditions Robinson. D'un certain Olivier Truc, plus connu pour avoir écrit Le Dernier Lapon, ou récemment L'Affaire du Nobel, et qui était correspondant au Monde pour tout ce qui était pays scandinave. Nicolas Otero, qui avait lui dessiné la série America avec 3K, chez Emmanuel Proust. Mmh. Et Sylvain Runberg de mémoire. Vous en avez pensé quoi de cette bande dessinée ? Emmanuel Proust, l'éditeur, Olivier Truc pour l'auteur. Un des co-auteurs, en fait.
Mm-hmm. Eh bien, moi, cette BD m'a inspiré la recherche d'un sketch de Raymond Devos, dont je vous lis juste un tout petit bout. Ça dit... On en lit des choses sur les murs. Récemment, j'ai lu sur un mur « Le Portugal au Portugais ». Le Portugal au Portugais. C'est comme si on mettait la Suisse aux Suisses ou la France aux Français. Ça ne serait plus la France.
D'accord.
Moi, je comprends très bien pourquoi Toups a eu cette pensée. Il faut dire que on est dans un petit village reculé de la France, petit village aux mains d'un maire d'extrême droite, et que là-dessus arrive une des figures de nationales de l'extrême droite qui va venir prendre la mairie pour pouvoir s'en servir de tremplin pour la présidence. Tout rapport avec des événements réels ayant existé est totalement fortuit. C'est une espèce de dystopie politique et une suite d'assassinats de...
Glauques.
De migrants.
De migrants.
The strange fruit.
Voilà. On est dans une autre réalité, mais qui n'est pas si loin de la nôtre que ça. Mm-hmm. Linda ?
Oui, alors là, c'est marrant, c'est assez paradoxal, parce que ça serait presque pour moi le contraire de Carou, où l'histoire ne m'a pas attrapé, c'est le dessin qui m'a attrapé, alors que là, le dessin ne m'a pas transporté, mais par contre, j'ai trouvé que l'entrée dans l'histoire était très fine, très intelligente. Et franchement, je suis arrivée à la fin en me disant « Ah, le prochain, c'est quand ?» Parce que c'est pas monolithique, quoi. Les jeunes racistes sont pas que racistes et ils sont pas que cons. Oui. Tous les flics sont pas de mèche et sont pas racistes, etc. Journalistes, il y a ce qu'on appelle les fouilles merdes et puis il y a des mecs bien. Mmh. Les politiques locaux, c'est pareil. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a vraiment un angle d'attaque qui est subtil, quoi, et que ça détricote finement les rouages de ce genre de situation. Et puis, ça nous éclaire sur justement comment ça se met en place. Enfin, voilà. Moi, je l'ai lu, je l'ai avalé, quoi.
Moi, j'ai fait rapide, parce que le temps passe. Moi, je trouve effectivement, et tu as totalement raison, Linda, sur... on n'est pas dans du manichéisme. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et l'auteur réussit à faire porter cette subtilité-là. Ce qui dessert la BD, je crois, enfin à mes yeux, c'est un petit documentaire à la fin qui raconte trois municipalités. Je pense qu'il est de trop parce que lui est justement manichéen. Et puis, cette BD nous fait référence, enfin, nous rappelle un autre petit bouquin, tout petit, de Frank Pavlov, qui s'appelle « Matin brun ». Et c'est exactement dans le même esprit. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas lu Matin Brun, c'est une grave erreur. C'est une grave carence.
Pardon.
C'est presque pas acceptable.
Oh là là.
Et donc, je recommande à tous de lire Matin Brun. Ça doit faire 40 pages.
2 euros.
Et c'est 2 euros. Et une fois que vous l'avez lu, vous en achetez 15 et vous le distribuez à tout le monde. Voilà à quoi me fait penser cette BD. C'est une jolie BD.
Très belle BD, en effet. Une sorte de mise à jour de la BD Choc également de François Durper et Farid Boudjelal, qui était sorti il y a quelques années maintenant. Qui s'appelait La Présidente, qui passait en revue toute... alors que, pareil, c'est construit sur des solides fondations historiques.
Je suis d'accord avec toi, Toups, mais là, je trouve que... Enfin, j'avais bien aimé, mais là, je trouve que c'est plus fin, quoi, comme accroche.
C'est plus fin parce que l'autre, c'était de la fiction totale. Ouais. Il l'avait fait... C'était de l'anticipation. Ouais. Et là, c'est presque de la prévision.
Oui. On est dans un futur temporel très proche. Oui, et puis surtout, là, il y a une espèce de cliffhanger, c'est-à-dire que c'est le premier volet, il y en aura d'autres.
Oui, voilà. Oui, c'est annoncé dès le départ.
Donc voilà, donc on attend quand même la suite avec beaucoup d'impatience. Ça s'appelle « On est chez nous ». C'est publié chez Robinson et voilà, c'est une affaire à suivre, comme on dirait.
Et notez, Martin Brun, Frank Pavlov, sinon Pavlov, vous aurez des problèmes avec Luc. Après.
Voilà, et puis...
Martin Brun aussi.
Martin Pavlov.
Et petit ours brun, mais on va s'accrocher. Alors, Toups, comment ça jazz ?
Ah ben, on va enfin savoir qui est le papa de Charlie. Mais est-ce que tu veux bien nous mettre l'extrait numéro 5, s'il te plaît, Luc, pour nous permettre de respirer une ou deux minutes ? Une ou deux secondes.
Dans la pièce. Ah,
désolé.
Je m'inscris en faux.
Désolé.
Voilà.
qu'est-ce que ça joue bien. Non, mais qu'est-ce que ça joue, quoi. Mais vous rendez compte, ça, c'est de la vie, ça. Aujourd'hui, c'est de la musique classique du XXe siècle, ça s'appelle le jazz. Mais à l'époque, c'était de la création. C'était de la création. Alors ça, c'était un morceau qui s'appelle Open Letter to Duke, par un certain Charlie Mingus, qui est paru dans un album qui s'appelait Mingus Minga Mingum. Alors, Duke, qui est ce Duke? On a parlé de comte, de baron et de duc la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon. Et évidemment, il s'agit de Duke Ellington. Edward Kennedy Ellington, 1899-1974. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est né au moment où la musique se créait, où ce jazz qu'on apprend à l'école désormais depuis 30 ans dans les universités américaines et puis depuis un peu moins longtemps dans les conservatoires en France. Ce jazz, cette musique classique du XXe siècle, c'était donc la musique qui était inventée tous les soirs. Donc c'est quelqu'un qui a vu sans doute ce fameux lieutenant James Earp, qui est mort en 19. Alors c'est l'homme qui a 13 Grammy Awards, dont 9 décernés de son vivant. L'homme qui a fait la musique du film de Otto Preminger dont nous parlerons dans 15 jours, peut-être, ou dans un mois. Alors je ne vais même pas dire qu'il s'agit de Anatomy of a Murder, autopsie d'un meurtre. Cet homme, tout le monde lui a rendu hommage, tellement c'était trop bien ce qu'il faisait. Boris Vian parle de lui. Boris Vian parle beaucoup de jazz de manière générale, mais dans l'écume des jours, il en parle énormément. Et il cite beaucoup Duke Ellington. Stevie Wonder, en 76, fait la chanson Sir Duke en hommage à Duke Ellington, son héros. Une énorme discographie, une énorme filmographie. Des tournées aux États-Unis, en Europe, de 1923, date de la création de son grand orchestre jusqu'à sa mort. Hein. Et d'ailleurs, une chanson qui est reprise par Josephine Baker, ça c'est au début des années 20, c'est juste trop long, c'est trop bien. C'est le papa de pas mal de musiciens, et on peut dire que oui, c'est la musique classique du XXe siècle.
Vous écoutiez toujours Radio G sur le 101.5 FM. J'aime bien Christian Roux. Je ne sais pas pourquoi. C'est le problème avec les auteurs que l'on a croisés un jour. On ne sait pas trop si on les aime pour leurs écrits ou simplement humainement. Surtout que Christian Roux, il n'écrit pas des histoires qui finissent bien. Il n'écrit même pas de jolies histoires qui finissent mal. Il écrit sur la vie. Et la vie, somme toute, elle est tout sauf chouette. Alors, que la guerre est jolie. C'est le titre de son dernier roman qui reparaît en poche chez Rivage. Ouais, je sais, c'est un oxymore et personne n'y croit après tout ce que j'ai dit. Surtout que la guerre, c'est l'Afghanistan, l'Irak et les banlieues. Au début, il y a Élise, un joli personnage principal, tout gentil mais intègre, qui vit avec nostalgie et un embryon dans le corps. Et puis, il y a une entreprise qui, avec l'aide de la municipalité de sa petite ville de banlieue lointaine, va décider de faire main basse sur un quartier. Pourquoi ? Ben, pour le rénover et attirer le bobo parisien et se faire plein de fric au passage. L'histoire est classique, mais ce qui est pas de chez Christian Roux, c'est comment c'est ficelé. 7-8 personnages montrés sous toutes leurs facettes qui apparaissent tour à tour humains ou salauds, et puis tous les trucs qui nous échappent et qui pourtant coulent de source. Trafic en tout genre, petites et grandes compromissions, faiblesses, rêves et cauchemars. Il y a tout ça dans ce roman. Christian Roux est un raconteur qui ne prend pas le temps de juger. Il expose des faits, il montre des choses, il tourne autour. Certains passages sont insupportables, mais on est surpris. Pourquoi ? Ben, parce qu'il y a... Il y en a d'autres que l'on supporte et qui sont pires. C'est assurément à cause de Christian Roux et de sa faculté à proposer un monde ordinaire gangrené par des ordures. Des ordures mineures, des ordures majeures. Comme ce Roland Deurte qui a joué les mercenaires dans tous les conflits récents et qui est ici en qualité de négociateur. Une véritable ordure. Pas comme Kofi, le dealer installé qui a sa propre morale et qui vient en aide à la population. Non, une ordure, quoi. Et qui a déjà croisé la route d'un certain Khaled, journaliste de son état, qui est tout sauf de sobriété. Une écriture classique, mais rythmée, un roman qui se lit d'une traite et qui se quitte avec mélancolie. Christian Roux est une faiblesse que j'assume, et c'est chez Rivage que la guerre est jolie. Et je crois que c'est l'heure de notre feuilleton radiophonique épisode 3.
Renifleur & Co. Mise en scène de Linda Gonin avec Laure Gélin, Thierry Piou, Toups Bébé et Linda Gonin. Voix du générique, Elouane.
Nous sommes dans le cabinet d'avocat Renifleur & Co. La secrétaire, Mademoiselle Fossette, est très occupée.
Misère, l'homme, le couilleur.
Bonjour Charlie, rappelle-moi, il y a quelqu'un qui arrive.
Il est gentil le petit chien. Je m'appelle Mr. Jones. Je veux voir Monsieur Renifleur.
Il est dans son bureau, allez-y.
Merci. Comment allez-vous Monsieur Renifleur? Un de mes amis m'a assuré que vous étiez un bon avocat.
Et il se dit votre ami. Asseyez-vous. Avez-vous un cigare?
Non. Désolé.
Eh bien, pourquoi n'envoyez-vous pas en chercher? Si vous me donnez 25 cents, j'irai moi-même.
Non, monsieur Renifleur.
Pourquoi? Vous ne me faites pas confiance?
C'est que je voudrais vous parler. J'ai des ennuis avec ma femme.
Vraiment? Moi aussi, monsieur, j'ai des ennuis avec ma femme, mais je ne m'en vante pas partout. Vous devriez avoir honte. Mademoiselle Fossette, montrez à ce monsieur le chemin de la porte. Et puis non, il l'a bien trouvé tout seul en arrivant.
Mais, monsieur Renifleur, je suis venu vous demander conseil. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Ma femme aime deux hommes et...
Ah, elle est bien bonne. Elle a fait le tour de mon club. À mon tour. C'est l'histoire de deux commis voyageurs, Jules et Hector.
Non, monsieur Renifleur, je vous en prie. Je suis venu vous présenter mon problème.
Très bien. Faites-le entrer.
Vous ne comprenez pas? J'essaye de trouver des preuves contre ma femme.
Mais que ne le disiez-vous plus tôt? Laissez-moi consulter mon traité. Voilà. L'affaire Émile Télégraphe contre la compagnie de chemin de fer Lao et Western. Il n'a qu'un tout petit bout de tronçon là-haut sur la colline.
Mais monsieur Renifleur, vous consultez un traité de législation sur le chemin de fer.
Et alors, ça vous dérange? Il fait 800 pages. Il est propre comme un sous-neuf. Donnez-moi un sous-neuf et je vous le prouverai.
Mais il s'agit de ma femme.
Est-ce une raison pour acheter un autre traité de droit? Pourquoi ne traînez-vous pas une compagnie de chemin de fer en justice? Ils ont bien plus d'argent que votre femme, et ils ne réclameront pas de pension alimentaire.
Je vous en prie, monsieur Renifleur, je n'ai pas envie de discuter. Je suis fatigué, énervé, à plat.
À plat? Voilà un argument de poids. C'est une locomotive qui vous a aplati?
Monsieur Renifleur, vous me portez sur les nerfs.
Ah ben ça vous changera. D'habitude, vous êtes porté sur la bouteille. Elle est bonne, non? Trêve de plaisanterie. Si j'ai bien compris, vous souhaitez faire filer votre femme. J'ai l'homme qu'il vous faut. Mon nouvel assistant, Monsieur Emmanuel Ravel. Non, ça ne veut pas recommencer.
À far pleurer.
Cette musique.
Basta,
ça me donne envie de manger des pâtes. Bon. Monsieur Ravelia a l'air idiot et ne dit que des bêtises. Mais ne vous y fiez pas. Il est réellement idiot.
Monsieur Reniflard, mon temps est précieux. Laissez-moi vous expliquer les faits. J'ai épousé ma femme en secret.
En secret? Vous ne lui avez pas dit? Mais pas étonnant qu'elle sorte avec d'autres hommes.
Monsieur Reniflard, nous devons obtenir ce divorce. Je veux que votre assistant, Monsieur Ravelli, suive ma femme.
Une chose à la fois. Occupons-nous d'abord du divorce, et puis nous pourrons tous suivre votre femme.
Pas très bien la procédure, Monsieur Reniflard. De grâce, appelez votre assistant. Je veux lui décrire ma femme.
Très bien. Très bien. Mr. Jones. Puisque vous le prenez sur ce ton, je vais l'appeler. Ravelli! Ravelli! Mademoiselle Fossette! Réveillez donc Ravelli! Mademoiselle Fossette, voulez-vous réveiller Ravelli? Monsieur Jones, voulez-vous secouer Mademoiselle Fossette et lui demander de réveiller Ravelli?
C'était le troisième épisode de notre feuilleton radiophonique Reniflard & Co. C'est jeudi et c'est à 18h et c'est à la librairie Contact à Angers. La Tête en Noir fête son 200e numéro. Le tout avec Marc Villard, Ronan Gouezec et Julien Elbruck. Un rendez-vous à ne pas manquer. Sinon, on est un peu triste parce que Nick Tocchese est décédé. C'était un auteur de romans policiers, mais aussi un biographe.
Grand critique
musical.
Oui.
Voilà, il est mort à 69 ans. C'est toujours regrettable.
Mais quand les excès de la vie sont excessifs, ça a des conséquences.
Excessives.
C'est ça. C'est ça. Et bon, on vous laisse. Maintenant, ça va être l'heure de Caresse Métallique, la bande des métalleux hurlants. Et on vous dit à dans 15 jours.
Bonsoir.
Bonsoir.
Radio G 101.5 FM.